Eh bien, bonjour à tous. Vous reconnaissez l'indicatif de l'émission Bulle de Jazz, un rendez-vous hebdomadaire le vendredi en direct de 15h à 16h30 avec une programmation et des invités. On a de temps en temps des invités, et bien ce coup-ci aussi on a un invité. Alors il ne sera pas dans le studio, Marcos de Oliveira, qui vient présenter son nouvel album. On l'aura au téléphone, mais ça en retire rien à la proximité qu'on pourra avoir avec lui. Et alors, on va un petit peu détailler cet album qui va bientôt sortir, mais dans la revue de presse qui est liée à cet album-là, je voyais que ce Brésilien, Marcos de Oliveira, a été fortement influencé par le multi-instrumentiste Hermeto Pascoal. Alors je vous avoue, ne pas résister à la tentation de passer un morceau qui est dédié à Cannonball Adderley, Cannonball Adderley à qui on doit l'indicatif de notre émission. Donc tout tombe bien, on écoute Cannon.
Thank you.
Voilà, on écoutait un morceau tiré d'un album Slave Mass de Emmato Pasquale, donc quelqu'un qui a influencé notre auditeur qu'on va voir bientôt en ligne. Voilà, donc ça sera Marcos de Oliveira dont on écoute un extrait de son album qui n'est pas encore sorti. Ça sent bien l'encre chaude, il vient d'être imprimé. Le morceau, ça s'appelle Chova non Telhado et c'est donc tiré de cet album qui s'appelle Exaltação du Marcos de Project. Allez, déjà en musique. tiré de l'album Deep Project, Marcos Deep Project, on a la chance d'avoir Marcos de Oliveira, qui est à l'initiative de ce disque, entre autres, Jazz Bossa Nova. Ton album s'appelle Exaltação. On en comprend, sans en parler vraiment le portugais, on a compris qu'il y avait quand même une certaine énergie dans cet album. Il vient de sortir, n'est-ce pas?
Bonjour. Oui.
Bonjour, Marcos de Oliveira.
Oui, mais vraiment enchanté d'être invité par toi et par T pour cette émission Bulle de Jazz.
En direct.
Bonjour,
en direct. Bonjour, T.
Bon, donc un album.
Exaltação, effectivement, c'est le titre de la chanson qui thème qu'on va écouter plus tard et je t'en parlerai plus tard. Voilà.
Donc c'est un projet qui a mûri, qui a mis un certain temps à mûrir, n'est-ce pas? Donc de la rencontre tu as formé un quartet avec des musiciens essentiellement brésiliens, j'ai vu d'après leur biographie.
Oui. C'est un projet qui est né d'une rencontre insolite de trois Brésiliens sur la ville de Lyon,
oui.
Et puis d'un Français avec aussi un parcours tout à fait atypique pour un Français qui est le bassiste.
Oui.
Et donc parmi les musiciens, on a Zaza Desiderio à la batterie,
uh-huh.
Qui est originaire de Rio de Janeiro et qui a commencé aussi sa carrière là-bas en jouant avec tous les formations locales. Et puis Everton Oliveira au piano, qui est originaire de Recife et qui a aussi commencé aussi son parcours musical avec les musiques du Nord-Est uh-huh. du Brésil et puis les musiques traditionnelles, et puis ensuite qui s'est beaucoup intéressé aux musiques instrumentales brésiliennes. Et puis Greg Tevenio, le bassiste, qui est un bassiste au parcours très original, comme j'ai dit, et puis qui a passé aussi une grande partie de son enfance et son adolescence entre les Antilles et la Nouvelle-Calédonie, et qui s'est beaucoup intéressé aux musiques caribéennes, et qui fait vraiment l'originalité de ce quartet, à mon sens, c'est cette rencontre déjà de trois cultures différentes avec moi, Marcos de Oliveira, qui est originaire de Porto Alegre, et donc avec ces rencontres déjà de trois points différents du Brésil et puis de la France.
Mais alors, est-ce qu'il y a une unité quand même au Brésil? Tu sais, quand tu poses la question aux Américains, ils disent « Ah oui, oui, une unité, on regarde tous la télé pareil, toi ». Et qu'est-ce que c'est le dénominateur commun des Brésiliens, alors?
Alors, en termes musical, tu veux dire?
Oui, culturel même, tu vois. Qu'est-ce qui...
Et culturel, oui. Je pense, bon, il ne faut pas chercher une unité absolue, uh-huh. Elle n'existe pas. Je pense qu'il y a beaucoup de différences et des singularités oui. Musicales et culturelles de chaque point du Brésil avec des contrastes très prononcés. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il y a une unité dans la mesure culturelle où le pays il a certains symboles et certaines choses qui sont quand même communes à tout le monde, pour prendre des traits culturels comme le carnaval ou des choses comme ça. Et puis en termes musical, par exemple, dans le courant de la MPB, ce qu'on appelle la musique populaire brésilienne,
oui.
Il y a cette synthèse de toutes ces singularités dont je viens de parler. Et je pense que, par exemple, dans la musique populaire brésilienne, il y a une unité. Et puis oui, pour répondre à ta question sur l'unité, oui.
Alors, tu vois, moi, quand on parle de musique brésilienne, je vois deux instruments, toi. Je vois la guitare et je vois les percussions. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on retrouve presque d'une manière incontournable chez la plupart des musiciens brésiliens?
La percussion, déjà, je pense que c'est la base, la rythmique, la base. Et donc, tu as bien raison de dire ça. Et la guitare, bien sûr, que serait la musique brésilienne
sans
la guitare? Bon, c'est mon instrument de prédilection, et puis c'est l'instrument que j'ai choisi pour jouer avec la flûte traversière. Et effectivement, je pense que la guitare et la percussion, dans la musique que je fais actuellement, ce sont les bases.
Est-ce qu'on va pouvoir écouter peut-être une illustration encore de cet album Oui. Donc, il y avait une proposition que tu nous avais faite,
oui.
qui était celle d'écouter le morceau qui ouvre l'album, qui s'appelle Samba Exaltação.
Exaltação, ok. Oui, Samba Exaltação. C'est le morceau qui donne le titre à l'album, qui fait référence au tout départ au Samba Exaltação, qui est un genre de samba.
Oui,
qui a été
style.
Très popularisé et qui a connu un immense succès avec la fameuse chanson Aquarelle d'Ali Barroso, oui. et plus connue comme Brasil, tout simplement. Et puis cette chanson, j'ai détourné le sens de ce genre qui est un genre très patriotique et qui rend hommage à la culture, à la beauté du pays, de la terre. C'est un genre. J'ai détourné pour faire une chanson qui parle de liberté et puis de ces rencontres et de la musique et de la façon que j'envisage la musique personnellement, c'est-à-dire en communication près du public et puis ce besoin de nourrir un rêve, de sortir de soi et de pousser un cri de liberté qui est le fil conducteur de cet album.
Je te remercie. Donc tu l'as pas appelé Ordem e Progresso, c'est ça, cet album?
Non.
On va découvrir le morceau, donc, la Samba Exaltação.
Gente, meu Brasil, um belo dia te deixei e escolhi La liberté, égalité, fraternité, do tempo em que a liberdade era somente o direito de escolher. Vem uma voz que canta ao longe uma antiga evocação de mais um samba exaltação. Andei e vi tantos lugares, tanta gente. Meu Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, o litoral, o interior, como uma nova aquarela, um novo céu, um novo canto, a nossa casa na Marambaia, beira da praia, um catavento, um girassol, um bem-te-vi, um beija-flor pra alegrar teu coração.
on va se retrouver à l'antenne.
D'accord.
Voilà, donc on vient d'écouter donc ce morceau Samba Exaltação. Tu m'as précisé justement qu'il y avait, tu prenais des libertés et c'était d'autres valeurs que celles qui étaient en général faisaient partie de ce genre musical. Et oui. Toi, tu prenais justement le un peu ce qui nous semblerait aussi ici la particularité brésilienne, c'est le métissage, l'addition des cultures et des possibles.
Oui, je pense que l'histoire du groupe déjà, et puis ma démarche musicale en tant qu'artiste, en tant que musicien, est celle-ci. Je me considère pas être un artiste isolé et que qui fabrique ma musique de rien.
À moi tout seul.
Moi, j'assume complètement le fait d'être dans le monde. Uh-huh. Et le monde, c'est ça. C'est aussi l'échange entre les cultures, le métissage, comme tu dis, l'interculturalité. Je le vis d'une manière tout à fait simple, si tu veux, dans mes compositions, quand je compose, par exemple, je pense que dans cette étape de composition, il y a d'une part une intériorisation où on va chercher à aller au fond de soi-même, mais dans ce fond de soi-même, il y a quelque chose de profondément contradictoire parce qu'on est toujours en fonction, moi personnellement, je suis toujours en fonction de la personne qui va m'écouter. Je n'ai jamais fait une chanson pour moi-même, j'ai toujours fait des chansons pour que les autres, et des morceaux aussi, pour que les autres ils s'approprient et puis qu'ils fassent la leur. Voilà.
D'accord, une musique de partage. D'ailleurs, je pense que c'est la qualité d'un musicien. À part de jouer en solo ou en quel cas on peut dire je le fais que pour moi, tu t'es forcément obligé d'être ouvert aux autres interprètes et bien sûr, comme tu le disais, au public à qui tu fais ce cadeau, bien entendu.
Oui, je pense que si pendant les concerts où mon plus grand bonheur, c'est d'amener les gens vers un univers, vers un voyage. Ouais. Et puis eux aussi, ils m'amènent dans des endroits où je penserais jamais y aller. Et c'est pour ça que chaque concert est différent, parce que ce qu'on reçoit et ce qu'on donne est en fonction de ce qui se passe dans la salle,
dans l'instant,
des gens,
ça.
De l'instant, et qui est une particularité au jazz aussi.
Tout à fait. C'est jamais joué d'avance. Oui, c'est ça. Le concert n'est jamais joué d'avance. Alors, il y a quand même une actualité qui sera celle du concert au Sunset à Paris, qui est une grande salle.
Justement, on sera en concert et on vous invite très nombreux à venir nous soutenir un concert au Sunset Sunside à Paris le 17 octobre à 20h30. On a annoncé sur les réseaux sociaux, on a aussi une certaine partie de la presse qui nous a suivis et puis continue de nous suivre. Le concert, il est annoncé donc le 17 et on vous attend très nombreux pour vivre en direct aussi en concert.
Est-ce qu'il y aura une retransmission radio? Est-ce qu'il y aura des enregistrements? Tu sais un peu ce qu'il y aura autour de ça?
Alors, il y aura un enregistrement audio, il y aura une partie qui sera filmée, mm-hmm. pas entièrement bien sûr.
Oui, d'accord.
Mais il y aura donc une actualité en suivi par rapport à ça.
Parce que je trouve que c'est très particulier, j'imagine que dans des circonstances comme celle-ci, où il y a une salle assez prestigieuse quand même, le Sunset, où il y a un public exigeant, c'est toujours intéressant de voir un peu, de se repasser, si tu veux, a posteriori, à travers ce que tu as pu filmer et enregistrer, qu'est-ce qui fonctionne, comment on peut toujours en faire avancer les choses, bien que l'album soit déjà enregistré, toi, pour...
Bien sûr, oui, je comprends bien, c'est la musique qui n'arrête jamais de vivre. L'album, c'est un moment, c'est une fixation d'un travail qui s'est fait à un certain moment. Et puis après, il y a toujours, la musique, elle continue de faire son propre parcours, comme on disait tout à l'heure, par rapport les moments, les endroits, les personnes, les rencontres, et tout ça qui n'arrête jamais.
Et la magie des instants, donc qu'on peut pas tout à fait saisir à l'avance, je comprends bien. Dis-moi, Marcos.
C'est ce que j'apprécie dans la musique vivante, et dans le jazz, dans la musique vivante.
Marcos, moi je te propose, tu as un morceau qui s'appelle Pas au Brésil, ça veut dire quoi ça, pas au Brésil?
Alors ce morceau c'est une rétrospective, pas une rétrospective, oui. C'est un retour aux racines d'une certaine manière, parce que il parle du moment où il y a eu la première rencontre culturelle, on va dire, entre les trois races qui composent le panel culturel brésilien. Et là, c'était la rencontre quand les Portugais ont rencontré la première fois les Indiens qui peuplaient toutes les côtes brésiliennes en 1500. Et les côtes brésiliennes, elles étaient, couvertes d'un arbre qui s'appelle le pau-brasil. Et cet arbre qui s'appelle bois de braise, c'est ce qui a donné le nom plus tard au pays.
Ah, d'accord. Ah, au Brésil, c'est la braise. D'accord. Ah, d'accord. C'est pour ça que ça chauffe au Brésil, l'ambiance. Voilà. D'accord.
Et elle parle aussi de ça, et puis elle parle aussi d'un Brésil imaginé à travers le filtre de quelqu'un comme moi qui me suis exilé volontairement en France. Et quand on est ici et qu'on regarde là-bas, il y a deux choses. Il y a d'une première part, il y a les souvenirs, les réminiscences, les choses qu'on garde en nous.
Oui.
D'une autre part, il y a la réalité actuelle de Brésil, dans laquelle quand je vais là-bas et puis que j'arrête pas de suivre ici aussi.
Oui.
Mais il y a toujours ce Brésil imaginé et imaginaire qui habite mes chansons et qui est comme une synthèse de ces deux Brésils précédents, oui. Celui des souvenirs et puis celui
de l'actualité vu de l'Europe, j'ai bien compris.
Voilà.
On va écouter donc pas au Brésil. Oh, tu me représentes encore les musiciens, veux-tu?
Oui, Zaza Desiderio à la batterie, Everton Oliveira au piano, clavier et au Fender Rhodes, et Greg Tevenio à la basse et Marcos Oliveira au chant, à la guitare et à la flûte traversière.
Pas au Brésil.
Brasil construiu sua casa frente para o mar, o campo, a floresta, onde o sol doura areia, onde o mar canta essa canção. Pego o sol e a estrada, minha guitarra fere a madrugada. Uma canção, uma criança, meu sabiá, meu passamos juntos, beira de o pôr do sol, com o vento no cabelo. Sabe, tô tentando entender a maneira de viver, sempre em calmaria, como nesse momento que passamos juntos, beira de o pôr do sol, com o vento no cabelo. Thank you. de viver sempre em calmaria, como nesse momento que passamos juntos, beira de o pôr do sol, com o vento no cabelo. O pau-brasil construiu sua casa, frente pro mar, o campo, a floresta, onde o sol por a areia, onde o mar canta essa canção.
Brésil. Donc, écrit. C'est toi qui écris tous tes morceaux, Marcos, ou c'est comment vous, c'est des compositions
J'écris les musiques et j'écris les textes. Oui.
D'accord. Ok. Super. Bon, donc, en plus d'être un flûtiste et un guitariste, tu fais aussi des tu fais aussi des masterclass. C'était notre question. Enfin, où tu voulais savoir où t'en étais de ça. Est-ce que tu continues à faire des masterclass?
Quand on s'est retrouvé avec Outé à Briançon il y a 2 ans, on avait déjà mis en place une masterclass avec un répertoire de musique brésilienne. Qui a très bien marché et puis qui s'est soldé par un concert en première partie du Marcos D Project Sextet à l'époque.
Oui.
Et cette masterclass était basée, moi je faisais les masterclass de chant brésilien et de guitare. J'ai, avec l'association qui s'occupe de la promotion de Marcos D Project, l'association Novo Canto, j'ai mis en place un atelier et puis une masterclass de bossa nova avec en visitant
les classiques.
Beaucoup les classiques d'Antônio Carlos Jobim.
Voilà.
Essentiellement.
Et de Vinicius ou des choses comme
de la bossa nova.
Ouais.
Une masterclass de chant. Et puis j'ai mis en place une séance d'arrangement vocaux pour ces morceaux avec des arrangements. Et bien sûr, et puis aussi une partie envolée de cet atelier avec les parties de guitare. Bien sûr que je poursuis toujours le projet avec des partenaires en pouvant étendre ces masterclass à d'autres instruments comme la guitare, le clavier et la percussion. Bien sûr, dans le cadre de rythme, parce que pour que les gens puissent approcher d'une manière assez décontractée la démarche du rythme.
Bien sûr, parce que c'est une couleur
très... respirant bien pour comprendre la syncope de la bossa nova. Et c'est un travail qui me tient beaucoup à cœur.
J'entends. Alors, tu sais, je voulais te poser une question parce que on m'a dit, alors, par exemple, j'ai découvert, tu vois, la bossa nova à travers Vinicius de Moraes, tu vois,
oui.
Et puis alors, c'était assez marrant parce que quand tu le vois, il est à sa petite table, la bouteille d'eau de vie à côté de lui, Toquinho sur le.
Oui.
Voilà, tu vois.
De whisky, pardon.
Ou de whisky, oui, voilà. Voilà. Donc, c'était peut-être du thé, hein, c'est comme dans les films, tu sais, les gens, ils boivent pas vraiment du whisky, ils boivent que du thé.
Et puis
alors, il chuchotait. Et puis alors, en général, la manière de chanter, tu vois, c'est une manière assez feutrée, tu vois, c'est pas les chanteurs de l'opéra italien, quoi, tu vois. Et alors, je me posais la question et on m'a dit, mais tu sais pourquoi? Alors, je voudrais que tu me confirmes ça. Il me disait, mais tu sais, c'est qu'avant, Bon, le régime, tu vois, à l'époque, tu vois, dans les années 60, c'était pas quand même très très souple au Brésil. Il y avait la liberté de parole était peut-être pas exceptionnelle. Mm-hmm. Et donc, les gens, ils répétaient dans des immeubles parce que c'était déjà très citadin, tu vois. Mm-hmm. Et on n'allait pas commencer à gueuler. On chuchotait, tu vois. On chantait tranquillou la guitare. Et c'est pour ça que quand on chante doucement pour que personne n'écoute, les voisins n'écoutent pas trop fort. Et ça a donné ce style de... Est-ce que tu peux me confirmer que c'est lié à cet événement historique?
Peut-être, je n'avais jamais songé à la question de la manière, mais c'est très intéressant comme, comme version, oui. Après, il y a d'autres théories dans les, comment dire, les interactions et puis entre le jazz et le cool jazz,
oui.
Et puis la musique de Chet Baker, par exemple,
oui.
Et puis... Et puis il y a d'autres personnes qui se sont aussi, comme Henri Salvador en France, qui sont aussi revendiquées avoir une participation à la création de la bossa nova. Mais cette version que je viens d'entendre, elle est vraiment pas mal, oui. Parce qu'effectivement, les grands acteurs de la bossa nova, comme Vinícius de Moraes, Edu Lobo, Tom Jobim, Jean Gilberto,
ouais.
Ils se retrouvaient dans l'appartement de Nara Leão, qui était la muse de la bossa nova, qui habitait à Copacabana. Et effectivement, je n'ai pas entendu, mais peut-être qu'elle avait des voisins, alors il fallait qu'ils chantent tout doucement, oui.
Et puis,
en
aussi...
tout cas, ça a bien réussi.
Oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi quand même quelque chose, moi j'ai alors tu sais, je ne comprends pas le portugais, mais j'ai l'impression qu'on me cause à moi quand on écoute de la bossa, tu vois.
C'est,
il y a comme un espèce de message personnel, tu vois. Et...
Exact.
Hein,
oui.
Ça. Donc on doit le chuchoter, c'est comme un truc d'amour, on crie pas dans l'oreille de celle qu'on aime, on lui susurre des mots, quoi, voilà.
On est à l'opposé du chant grandiloquent,
ouais.
Et puis on est dans le recueillement, et puis dans une voix qui est mesurée, tout à fait, et puis dans un registre plus feutré, qui fait la caractéristique de la bossa nova. Et puis aussi dans la précision mélodique, rythmique aussi, qui est très très forte.
Qui est sur l'accompagnement guitariste, parce qu'en général, enfin tu vois, moi je voyais, si tu veux, la bossa, c'est de la guitare et du chant, quoi, tu vois, grosso modo c'est ça, non?
Jean Gilberto, moi je dirais, qui est la représentation, le summum de ce que nous venons de parler, avec cet équilibre entre le feutré de la mélodie, la précision rythmique de son chant, et puis le contraste entre les appuis rythmiques qui sont jamais où on l'attend, qui fait à la guitare,
ouais.
Et puis aussi de sa voix. Je pense que on est dans l'illustration parfaite de ce genre musical qui est la bossa nova, oui.
Dont tu es aussi un porteur. Je me propose aussi de réécouter un morceau. Alors je sais pas s'il est proprement bossa, c'est
oui.
Un morceau de ton album. Alors là je peux pas le dire le titre, tu vois, c'est ton numéro 6, c'est trop long quoi quand même.
Alors c'est un morceau qui s'appelle Como si as coisas falassem, et qui est une rythmique qui se situe entre... Au départ, c'était une cymbalante.
Oui.
Et puis, comme elle a évolué dans la façon on a interprété un groupe et un concert, parce
oui,
qu'on a beaucoup
ça a évolué,
tourné
oui.
ces morceaux avant de les enregistrer, il est devenu comme un morceau de musique presque cubaine, et puis aussi un petit côté de boléro, moi je dirais.
Alors, tu peux me traduire peut-être ce que ça veut dire?
Alors, c'est un morceau qui s'appelle « Comme si les choses parlaient ».
D'accord.
Et puis c'est un morceau qui parle des mots et des choses,
mmh.
et puis de pouvoir des mots et puis la façon dont les choses qui nous entourent dans les objets de la vie quotidienne.
Oui.
Le début de la chanson parle d'une chaise, d'une table où on puisse se réunir autour pour jouer avec la guitare et la percussion. Justement, comme tu parlais au début, la chanson, elle commence comme ça. Et puis, le refrain, il dit, si les choses, parce que les choses semblent avoir de l'humanité, du mouvement, comme si elles nous parlaient, comme si elles reflétaient nos sentiments, nos secrets, les choses semblent voir et entendre. Ça, c'est le
refrain.
Le refrain de la chanson.
On découvre ça ensemble avec tout ça en brésilien, et c'est toi qui chantes.
Thank you.
uma mesa, uma cadeira, um cantinho, uma varanda, onde a gente possa cantar com pandeiro e com violão. Nossos sonhos, nossa vida, detalhes do dia a dia, pequenas coisas e o velho dilema de ser e de estar. Sinto o que sou, o que digo, aonde vou, o que acredito, o que desejo. Navegamos num mar sem fim, de partida e de chegada, de silêncio e de palavra. Uma caneta, um isqueiro, um cigarro e um café, e um cachorro latindo ao longe, meus nervos à flor da pele. Um cinzeiro, um relógio, um vestido, um paletó, um telefone, o corpo na cama, um dia de chuva. Porque as coisas parecem ter humanidade e movimento, como se elas falassem. Segredo, as coisas parecem ver e
en direct, je vous
on reprend le micro. Merci,
oui.
Marcos. Bon, alors tu sais, parce qu'il y a aussi une vertu quand même de la musique brésilienne, c'est que ça nous fait voyager, quoi. Si tu veux, quelque part, pour les Français, il y a aussi un imaginaire du Brésil, tout comme il y a peut-être aussi pour les Brésiliens un imaginaire de la France. En tout cas, moi, j'y vois.
Oui.
Une forme de lien, tu sais. Alors je sais pas quelle a été la carrière de Baden-Powell, parce que nous on a connu, si tu veux, quand même pas mal la musique brésilienne à travers Baden-Powell, et
oui.
Puis aussi à travers Claude Nougaro, qui était un chanteur qui reste encore toujours présent dans nos cœurs, mais qui a fait beaucoup de télé, si tu veux, toi, à l'époque, et qui était, on peut dire, aussi un ambassadeur et du jazz, mais aussi de la musique brésilienne.
Et ça, c'est un terme que j'adore, ce terme d'ambassadeur de la musique brésilienne, et c'est tout à fait vrai en ce qui lui concerne.
Voilà, nous on a beaucoup aimé ça. Alors, ce qui est aussi amusant, si tu veux, c'est que vous avez eu un ministre de la culture assez particulier aussi, qui était aussi un ambassadeur Gilberto de la culture Gilles, brésilienne. C'est Gilberto Gil, bien sûr.
Bien sûr. Oui.
Mais alors, est-ce que ça fait bouger les lignes qu'il soit ministre de la culture, Gilberto Gil?
C'est une vieille histoire déjà, parce que c'est une histoire qui remonte à partir des années 2003-2004.
Ouais.
Et puis je pense qu'il y a des choses qui ont bougé, effectivement, peut-être pas suffisamment, comme on disait à l'époque.
D'accord. Enfin, en tout cas...
C'est une affaire très très compliquée, la culture...
Au Brésil ?
Dans notre pays, oui.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est vachement présente. Enfin, moi, je sais que j'avais vu des trucs à la télé où tu vois le moindre prédicateur, tu sais, parce qu'il y a plein d'églises différentes, etc., de cultes. À chaque fois, bah, vas-y, il y a un orchestre qui joue. On a l'impression qu'elle est. Alors, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est comme ça un cliché?
Non.
Mais est-ce que la musique, elle est vachement présente dans le quotidien des Brésiliens?
Ce n'est pas une illusion. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est bon, en dehors du cliché où on imaginerait que tout juste débarqué de l'aéroport, on tombe tout de suite
sur un orchestre de samba.
Ouais. En dehors de ce cliché-là, mais je pense que la musique est une véritable réalité et puis qu'elle se passe aussi dans la rue, bien sûr. Hein, oui, tout à fait. Moi, j'étais abasourdi dans le nord-est de Brésil, par exemple, quand j'ai voyagé là-bas, les dernières fois que j'étais là-bas, de voir la richesse dans les mains des musiciens qui ne sont pas forcément des grands musiciens, mais une richesse rythmique extraordinaire. Et puis, culturellement, c'est quelque chose qui est très imprégné chez nous, ce sens du rythme. Au départ, pour ça, tu avais bien raison de souligner que la percussion était très 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 importante dans cette richesse, dans les différents rythmes qu'on peut savoir avec des petites variations. De chaque rythme, on peut en avoir une vingtaine de différents dans chaque genre différent. Donc non, c'est, à mon avis, c'est une réalité.
Une réalité que la musique
La culture, elle est de partout. Après, le suivi de la culture, c'est une autre histoire.
Oui, c'est ça.
Et puis donner des conditions pour que les artistes puissent se produire dans des conditions correctes, ça, c'est une toute autre histoire. Il ne fait malheureusement pas partie des priorités des politiques.
Des décideurs, des politiques là-bas, je sais. On veut plutôt développer l'agro-business que la culture, j'ai compris.
Et on aimerait bien que ça soit équitable entre le potentiel un équilibre entre le potentiel et les réalisations.
Oui, c'est vrai. D'accord, je comprends bien. Mais alors, autre chose, tu sais, tu parlais donc du Nord-Est. À San Salvador, on m'a dit que c'était la deuxième ville où on enregistrait le plus de disques de reggae. Tu sais ça, si c'est vrai ou pas? Parce que...
C'est tout à fait vrai. Le reggae, le samba reggae et le reggae est un genre qui est très développé là-bas, oui.
Et c'est typique justement du Nord-Est ou parce que c'est plus près des Antilles ou de... J'en sais rien.
Je n'ai pas l'explication exacte de ça. Peut-être dû à une proximité avec les Caraïbes, et puis certainement aussi par empathie entre les cultures noires, parce que Salvador, c'est une ville profondément noire, et la culture noire a toujours eu sa place, et je pense qu'il y a effectivement un écho avec la Jamaïque et puis le reggae.
J'entends bien. Alors, le Brésil aussi, évidemment, il est super connu par le football. Ça, quand même, on peut pas le nier. Et alors, tu sais, il y avait eu un truc qui était incroyable. Il y avait, alors, des France-Brésil. Il y en a eu, évidemment, des rencontres de football France-Brésil. Mais il y en avait une qui a été vraiment formidable. C'était, tu te souviens certainement de cette chanson qui s'appelait Brigitte Bardot. Tu connais celle-là? Tu connais?
Celle-là.
Et alors, il y a eu un moment, tu sais, le coup d'envoi d'un match France-Brésil, c'est Brigitte Bardot qui est arrivée en short sur le terrain, tu vois. Et qui, c'est pas des bêtises. Et qui a passé la balle. Elle a pas fait un grand tir de 40 mètres, hein. Elle a poussé le ballon, tu vois, jusqu'à un joueur brésilien.
Et voilà. D'accord. Et puis, ça, c'était pendant une Coupe du Monde,
C'était un match amical, je crois, tu vois, en 1912 ou un truc comme ça, peut-être.
J'exagère. D'accord, il y a très longtemps. Alors.
Oui, il y a très longtemps. Mais ça avait eu un retentissement médiatique important.
Oui, le football, il est au cœur aussi. Je pense qu'on le trouve dans la rue un peu de partout. Et j'ai fait une chanson qui s'appelle Maracana. Je pense que tu m'avais dit qu'on allait l'écouter.
Ben oui.
Comme... C'est une chanson que j'ai faite en train de regarder un match de Coupe du Monde.
Youpi.
Je suis pas un inconditionnel de football. Je passe, c'est pas une grande passion chez moi.
Ouais, mais dis-nous, avoue, t'as déjà joué au football.
J'aime bien, de temps en temps, regarder un match.
Ouais.
Et cette chanson, je l'ai composée dans le rythme d'un match de foot.
Allez.
Au Maracana.
Allez, on l'écoute. Au rythme.
Voilà, eh bien, on quitte le stade de Maracanã, où France et Brésil, ça a été 5-5, un magnifique match, voilà, où il y a eu beaucoup de belles actions. Et on retrouve Marcos pour ton album, donc Marcos D Project. Alors, oui, on va rappeler quand même que cet album, donc millésimé 2018, oui, est dans les bacs le 19 octobre.
Alors, l'album, il est dans les bacs, il sort dans les bacs le 19 octobre, distribué par UVM Quart de Lune,
oui,
avec le concours de la promotion de cette sortie et de ce concert qui est réalisé par Vivcom et Séverine Berger.
Qu'on salue.
Et qu'on salue, chaleureusement. Et bien sûr, en vous invitant tous à venir nous soutenir à Paris pour partager ce moment de ce concert le 17 octobre au Sunset Sunside à Paris. Et puis aussi, bien sûr, venez, si vous voulez d'ores et déjà disposer de l'album, vous pouvez le commander en format numérique sur vos plateformes préférées, soit Deezer et Spotify. Vous pouvez aussi avoir toutes les informations concernant Marcos D Project sur le site www.marcosdproject.com. Et puis surtout, merci à Bulle de Jazz, merci Philippe, merci UT. Vraiment très 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 heureux d'être avec vous et de partager ce moment avec vous.
En direct dans le studio.
Nous aussi, on est très contents.
En toute connivence. Vraiment, c'est comme si j'étais chez vous, je vois vos paysages, vos chèvres, et puis c'est magnifique.
Oui, tu viendras la prochaine fois en direct.
Tu verras pour
avec
de vrai, voilà, tu verras
la flûte traversière.
Bon, alors on t'attend dans le studio quand tu veux, avec ta guitare et ta flûte traversière.
Merci.
Et puis
beaucoup.
On continuera à repasser à l'occasion des morceaux de cet album là pour le plus grand plaisir de nos auditeurs.
Merci
Marcos
beaucoup
d'avoir pris le temps pour nous. Et puis bon succès pour la sortie de ton album. Et puis en souhaitant vraiment un public chaleureux pour ton concert du 17 octobre au Sunset.
Merci Philippe, merci UT, au plaisir.
À bientôt.
À bientôt et on continue.
Au